Oui, bonsoir Romain.
Bienvenue. Elle est RFI Soir dans 30 minutes après le journal de Sophie Pouzrat. Nous tenterons de tracer les perspectives en Haïti après la démission annoncée l'année dernière d'Ariel Henry, le Premier ministre. C'était la grande demande de la population pour tenter de commencer à ramener le calme dans le pays. Le vote aujourd'hui du Parlement européen sur des méga camions. Les eurodéputés ouvrent la voie à la circulation de camions pouvant aller jusqu'à 25 mètres de long au motif du climat. Mais c'est un sujet qui divise, ce sera l'objet de questions d'environnement. 19h30. Dans une heure, Afrique Soir, la première édition, Sylvie Berruet aux manettes. Mais d'abord, c'est notre débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et ce soir, ce terme qui est monté dans le débat public ces dernières semaines, qui peut laisser la place à un imaginaire sans limite, est-ce qu'il faut réensauvager la planète ? La question est un peu plus complexe qu'un simple lâcher d'animaux aux quatre coins du globe. Il s'agit pas moins de restaurer un milieu naturel tel qu'il était. L'enjeu est considérable. Deux chiffres pour bien s'en rendre compte. Aujourd'hui, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction et plus de la moitié du PIB mondial dépend aujourd'hui de cette nature qui est en train de disparaître. Alors comment réensauvager ? Jusqu'où réensauvager ? Quelle place pour l'homme ? Est-ce que c'est la solution miracle face au changement climatique ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Michaël Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur de la Moselle, dans l'Est de la France, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Il y a 58 parcs, ce que vous me disiez il y a quelques instants, ça représente 17% du territoire français. En ligne avec nous, Alain Révérol, bonsoir.
Bonsoir.
Naturaliste, généraliste, membre de l'association La Salse Pareille dans l'Hérault, département du sud de la France, spécialiste des rapaces. Et vous êtes à l'origine d'une tribune dans Le Monde qui a fait beaucoup de bruit fin février. La réintroduction d'espèces animales, il est temps, écrivez-vous, de mettre les parties prenantes autour d'une table. On va évidemment en parler dans ce débat. Clémentine Mutilio, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, doctorante à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à Avignon Université, et vous intéressez particulièrement aux effets du réensauvagement des grands herbivores. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Alors on va commencer par faire un point sur la disparition des espèces. Ça représente quoi ? Quelles en sont les conséquences ? J'évoquais, Michaël Weber, on va commencer avec vous là. J'évoquais l'avenir, 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction par l'activité humaine. Mais déjà aujourd'hui, les espèces disparues, elles représentent quoi ?
Écoutez, elles représentent surtout une menace pour l'humanité elle-même. Mmh. On a oublié de se rendre compte qu'on est aussi une de ces espèces et qu'il y a une chaîne alimentaire, il y a des interactions entre l'ensemble des espèces et que forcément, si les espèces disparaissent, c'est la vie sur Terre qui est elle-même menacée. Et en effet, aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la façon dont on peut retrouver une forme d'équilibre. Mais à chaque printemps, on annonce par le biais de l'IPBES le nombre d'oiseaux qui ont disparu, effondrement de la biodiversité, notamment dans les champs, avec une disparition des oiseaux communs de façon exponentielle, difficultés sur notamment les milieux humides, puisqu'on a aussi un changement climatique aujourd'hui de plus en plus important. Et donc tout cela est des équilibres. Et je rajoute en plus de cela aussi les espèces envahissantes, qu'elles soient faunistiques et floristiques, qui finalement déséquilibrent notre écosystème et qui sont la conséquence de la circulation des matières, des hommes et des animaux sans doute, et un changement climatique qui est lié. Donc tout ça est évidemment lié, ça concerne, et je crois que chacun de nos concitoyens, c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour le sujet, c'est que chacun d'entre nous a pu constater dans sa vie quotidienne qu'il y avait effectivement un changement climatique et qu'il y avait un changement des paysages et de la présence des animaux autour de nous.
Alors, selon le Fonds mondial pour la nature, si on devait retenir un chiffre, en 50 ans, la Terre a perdu 70% de ses populations de vertébrés sauvages, mais au-delà évidemment de la forte émotion que ça représente, ce chiffre, vous dites que ça menace l'homme, et en quoi ?
Mais parce que tout simplement, je prends un exemple qui est connu, mais s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, il n'y a plus de pollinisation. S'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de... Le végétal est dans ce cas-là menacé. Hein, et c'est la même chose pour d'autres espèces. Le risque, ce n'est pas simplement qu'il y ait une disparition des espèces, mais c'est aussi qu'il y ait une domination d'un certain nombre d'espèces. D'ailleurs, l'humain en est une de ces espèces qui domine la planète et qui pense finalement qu'il peut s'affranchir de tout le reste. Et c'est totalement impossible. On a besoin de ces interactions permanentes.
Donc l'humain menacée évidemment par ces pertes de la biodiversité, l'économie mondiale menacée, je disais, c'est plus de la moitié du PIB mondial qui dépend de la nature qui est en train aujourd'hui d'être détruite.
Tout à fait. Alors bien sûr, il y a ça, et puis il y a l'impact aujourd'hui de la lutte contre l'érosion de la biodiversité ou de la lutte contre les espèces envahissantes qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros qu'il faudrait injecter, donc une part importante du PIB qu'il faudrait injecter pour recréer de l'équilibre. Et franchement, je pense que ce qui est important, et ça doit être à mon avis le sens ou le fil conducteur, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer l'homme et la nature. Je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité, à certaines conditions, de trouver en quelque sorte un espèce de modus vivendi, un nouveau contrat qu'il y a à avoir entre l'homme et la nature. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la Covid, en quelque sorte, parce que je pense que c'est là qu'il y a vraiment eu un changement, depuis la Covid, nos concitoyens se sont beaucoup plus intéressés à l'espace qu'il y avait autour d'eux, et donc à l'environnement qu'il y avait autour d'eux. Ont eu des pratiques touristiques, y compris qui les ont amenés à aller vers des espaces verts. Et ça, c'est en quelque sorte une chose nouvelle qui est intéressante parce que ça montre que nos concitoyens d'un coup, s'intéressent à l'environnement. Et donc, ensemble, nous pouvons maintenant construire, je pense aussi, des processus qui permettent de recréer des corridors écologiques, mais qui permettent aussi, et donc avec une prise de conscience derrière, mais qui doivent éviter, à mon sens, qu'on fasse tout et n'importe quoi. Et je crois que dans la tribune, moi je ne suis pas si net à cette tribune, mais c'est intéressant de ce que j'en ai vu, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de réintroduire toutes les espèces un peu n'importe où. Il y a des conditions qui font que cette réintroduction peut parfois avoir du sens et qu'elle est pertinente, mais il y a aussi des conditions qui font que ce n'est absolument pas envisageable. Nous, on a réintroduit le lynx chez nous dans le parc des Vosges Nord, mais ce n'est pas possible partout.
Ouais. On va parler de cette tribune évidemment avec Alain Révérol qui en est à l'origine. C'est intéressant parce que le Covid effectivement a été un déclic aussi parce qu'on a redécouvert certaines espèces s'approchant d'agglomérations même parce que l'activité humaine était en baisse et ça montrait bien que l'activité humaine provoquait la destruction de certains espaces de biodiversité. Clémentine Mutilo, on en vient à ce réensauvagement. On va évidemment aussi évoquer la place de l'homme dans ce réensauvagement de la planète que vous avez commencé à évoquer, Michael Weber. Mais faut-il réensauvager la planète? C'est la question qu'on pose ce soir. C'est une question qui n'est pas nouvelle, il faut le dire.
Oui, effectivement, ce n'est pas une question si nouvelle que ça. Mais comme le disait M. Weber, en fait, c'est très contexte dépendant. On ne va pas pouvoir réintroduire des animaux n'importe où, pas, et encore d'autant moins des grands carnivores ou des grands herbivores qui peuvent faire des dégâts conséquents. Et la relation avec tout le tissu socio-économique de la région est très très important, et on ne peut pas faire ce genre de projet si on n'est pas soutenu par la population aux alentours. Après, ça c'est effectivement plus des questions socio-économiques. Et d'un point de vue plutôt écologique, c'est la même chose. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi et jouer entre guillemets aux apprentis sorciers.
Mais qu'est-ce qu'on fait déjà ? On va évoquer ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on fait déjà ? Parce que quand je disais que c'est un concept, le réensauvagement, qui n'est pas nouveau, même si pour certains, c'est la première fois peut-être qu'on l'entend, il date des années 1990. Ça, c'est un concept américain.
Oui, c'est ça. C'est exact. Ça nous provient des États-Unis et c'est parti de l'observation du fait que quand on réintroduisait, notamment là c'était le cas de grands carnivores comme les loups, on avait toute une cascade d'effets sur la chaîne trophique et qui allait engendrer des changements sur les habitats, sur les autres animaux qui s'y développent, etc. Et donc effectivement, c'est pas nouveau, mais ça a pris beaucoup plus d'ampleur ces dernières années parce qu'on se rend compte qu'on arrive effectivement à un moment où il faut qu'on agisse, et parfois en agissant moins sur les écosystèmes, en laissant faire un peu plus la nature et en utilisant celle-ci et sa propre capacité à se restaurer pour faire au mieux.
Alain Révérol, vous qui êtes naturaliste, généraliste, quel regard vous avez sur le réensauvagement tel qu'il est pratiqué jusqu'à aujourd'hui? Et encore une fois, avant de se projeter sur est-ce que le réensauvagement peut répondre aux défis du changement climatique?
Alors, je ne saurais pas dire comment il est pratiqué. Je pense qu'il y a beaucoup une question d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut difficilement comparer les États-Unis ou la Russie à l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, elle est sérieusement artificialisée. Et de ce fait-là, on peut difficilement imaginer très ensauvagée au sens sauvage de la chose, à une échelle telle qu'on l'imagine. On peut réensauvager une terre agricole en favorisant des haies, en favorisant des zones humides, en changeant des petits curseurs. Donc c'est pas, pour moi, l'histoire d'opposer l'homme à la nature, elle se pose pas trop parce que
on pose pas la question encore de l'homme à la nature. On va définir le réensauvagement d'abord. Si vous deviez donner pour nos auditeurs une définition concrète du réensauvagement, encore une fois, on a peut-être l'image d'un lâcher d'espèce. C'est un peu plus complexe que ça.
Oui, le réensauvagement, pour moi, en tout cas, c'est peut-être commencer par laisser un peu de place. On a fait une petite expérience dans l'Hérault avec un site d'escalade qui était occupé à 100% de son linéaire en enlevant sur 10% de son linéaire l'aménagement pour l'escalade et très rapidement on voit revenir des espèces. On l'observe aussi dans par exemple dans les images nuit-jour de la fréquentation d'un espace naturel. On se rend compte que la présence humaine peut tenir à distance la faune sauvage, mais que dès qu'on s'éloigne, et on l'a vu avec le Covid, cette faune sauvage peut revenir. Et donc, je suis pas convaincu qu'il y ait une nécessité de réensauvager. Je pense que c'est quelque chose qui se fait spontanément si on arrête de mettre la pression, si on se retire, si on restitue des espaces. Je pense que ça tient beaucoup à la qualité des espaces et à leur relatif non-aménagement, plus que à re-ensauvager.
Ouais. Et c'est intéressant parce que réensauvager, on a l'impression qu'il y a une action active. Oui. Or, vous dites, c'est laisser un peu de place. Je reprends le mot de déprise agricole qui est souvent évoqué. Michael Weber, vous avez des exemples de réensauvagement, vous qui êtes président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France.
Je pense que là, il y a des exemples qui ont été quelque part un peu évoqués. Je prends l'exemple effectivement de l'escalade. Nous, dans le parc des Vosges Nord que je présidais, il y avait là aussi des rochers d'escalade en désinstallant effectivement ces lignes d'escalade, on a vu réapparaître le faucon pèlerin parce qu'il a besoin de cet espace-là. De la même façon, on a eu beaucoup de questionnements sur l'extinction partielle de l'éclairage public il y a quelques temps. Alors je le dis, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a 90% des insectes qui sont des insectes diurnes et le fait d'éteindre l'éclairage public a permis aussi à ce que cette biodiversité-là puisse réapparaître. Et d'ailleurs, certains territoires en France sont maintenant reconnus comme étant des territoires qui n'ont plus de pollution nocturne ou en tout cas très très peu. Et puis surtout, il y a la question de l'espace, parce que je crois que c'est vraiment le plus important. C'est qu'on ne peut pas transposer en effet des espaces importants comme on parle souvent du parc de Yellowstone aux États-Unis qui est très connu, qui est le début des parcs nationaux ou d'un certain nombre de territoires qui sont très ouverts au niveau russe. Et puis le parc de Bielobeja qui est un parc entre la Biélorussie et la Pologne qui était proche d'une forêt dite primaire. Mais vous voyez, si aujourd'hui on disait il faut réintroduire, et d'ailleurs c'est un des projets puisque Francis Allais, l'association que préside Francis Allais, a ce projet-là de recréer une forêt primaire en Europe occidentale, a priori entre la France et l'Allemagne sur 70 000 hectares, c'est extrêmement difficile parce qu'on a des petits villages, on a des gens qui y habitent, et c'est là qu'il y a une difficulté. Donc la question du réensauvagement, c'est effectivement de redonner l'espace, mais un espace qui est, je dirais, à la fois qui combine, qui permet de l'activité humaine, sociale, économique sans doute, mais qui en même temps garantit un espace de vie pour ces espèces que l'on veut maintenir ou que l'on veut réintroduire. Puis il y a l'aspect social, parce que l'acceptabilité n'est pas la même. Hein, quand on prend l'ours, le lynx et le loup, vous avez vu les débats qu'il y a sur le loup qui pose problème et qui finalement s'est réintroduit après, assez facilement et tout seul. L'ours qui est très décrié et le lynx qui est plutôt un animal qui est bien perçu parce que c'est en quelque sorte un gros chat. Alors que les trois ont un impact en termes de prédation qui est assez proche quand même.
Mais ce que vous dites, ça ne veut pas dire que pour que le réensauvagement soit porteur, il faut qu'il se fasse uniquement sur de grands espaces?
Non, et je pense que justement c'est là-dessus qu'il y a sans doute un effort à faire, c'est de trouver l'espace le plus adapté à la situation particulière que l'on a. Et que derrière, il ne s'agit pas simplement d'avoir des poches de biodiversité sur le territoire, c'est un peu le défaut, à mon sens, que l'on a actuellement. Vous savez, la France a pris le parti de viser 30% d'espaces protégés. protégé dans 10% de zones de protection forte. Mais si vous avez 10% de protection forte qui sont déconnectées du reste du territoire, ça n'a pas d'impact. Les espèces, elles sont comme les humains. Elles ont besoin de pouvoir circuler pour pouvoir se reproduire, pour lutter contre une génétique qui serait en difficulté, enfin, etc.
En tout cas, le point commun entre grands espaces et petits espaces par rapport à cet réensauvagement, c'est juste l'idée que l'homme lâche prise.
C'est en tout cas que, moi j'appelle ça, je plaide pour un nouvel humanisme de la nature. Ouais. C'est-à-dire que l'homme regarde la nature, que l'homme se penche sur ce qui l'entoure. Et vous savez, c'est plutôt l'héritage d'une culture judéo-chrétienne qui part d'un texte qui dit l'homme doit dominer la nature. Et je crois qu'on doit sortir de cela et se dire que l'homme n'a pas à dominer la nature. Il est un des éléments de la nature. Il peut y faire beaucoup de méfaits, mais il peut aussi parfois la réparer. Il faut qu'on se penche maintenant sur la façon dont on répare la nature.
Alain Ravérol, est-ce que réensauvager, c'est protéger sans exploiter ?
Question un peu délicate. On va avoir du mal à ne pas exploiter pour s'alimenter.
Mais, est-ce qu'on peut protéger sans exploiter, c'est vrai.
Mais alors, bien sûr que, enfin, moi je pense qu'il faut aussi protéger, c'est-à-dire que des espaces pas totalement sous cloche, mais des parcs nationaux, des noyaux en fait de grands espaces très peu anthropisé, c'est quand même des réservoirs à préserver. Et là aussi, on n'est pas obligé de tout exploiter. On peut aussi laisser des grands espaces non exploités. Et d'ailleurs, très souvent, ces grands espaces non exploités sont des espaces plus difficilement exploitables.
Bah d'ailleurs, quand on laisse ces grands espaces, pardon, je vous coupe, mais non exploités, c'est là que se produit le réensauvagement. La recréation d'un espace de biodiversité.
Oui, bien sûr. On l'a vu avec les. On le voit beaucoup d'ailleurs avec les prédateurs qui, pour beaucoup d'entre eux, reviennent d'une façon assez spontanée et qui semble une surprise pour nous. Enfin, qui est une surprise au vu de la dégradation globale de la biodiversité et des espaces naturels, forestiers, agricoles, au vu de cette dégradation, on est assez surpris d'un retour. Et on a toujours une difficulté, c'est aussi l'échelle de temps sur laquelle on raisonne. Et ce que l'on observe, par exemple, sur les rapaces, c'est qu'en Europe de l'Ouest, en tout cas en France, une grande majorité des espèces de rapaces réaugmentent. Plus ou moins vite, plus ou moins fortement. Et ça, c'est simplement le fait de, avec un certain décalage dans le temps, d'avoir légiféré sur le fait que ces espèces-là, il n'y avait aucune raison de les détruire. Et à partir de ce moment-là, très lentement, hein, le temps déjà que culturellement on accepte l'idée de ne plus les détruire, ensuite que démographiquement, les populations se reconstituent. Et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on observe que ces espèces-là reviennent un petit peu. Donc, il faut avant tout préserver les espaces pour ces espèces-là. C'est à mon sens, la grande priorité dans les endroits très anthropisés. Voilà. Et quand on voit les espaces qui sont menacés, on se rend compte que il y a un sacré lien entre les espèces qui sont les plus menacées. Chez les oiseaux, par exemple, les espèces des milieux agricoles, des plaines sont beaucoup plus menacées. Mais où est-ce qu'on construit les plateformes logistiques dans les plaines? On continue à grignoter des espaces, à artificialiser des espaces simplement parce que économiquement, il est plus facile de construire des zacs dans des plaines. Et on sacrifie à la fois les terres agricoles et à la fois des espaces pour la vie sauvage. Donc je pense que, enfin, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, la priorité absolue, elle est là.
Et d'un mot pour résumer votre propos, préserver l'existant, je dirais, plutôt que réensauvager à proprement dit.
RFI, le débat du jour.
Car notre question ce soir est-il réensauvager la planète? Mes trois invités ce soir,
Alain Révérol, que l'on vient d'entendre, naturaliste généraliste, membre de l'association La Salse Pareille dans l'Hérault, spécialiste des rapaces, Clémentine Mutilo, doctorante à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à Avignon Université, et Michael Weber, sénateur de la Moselle, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Donc on a fait le tour de la situation déjà concernant aujourd'hui le réensauvagement de la planète. On a bien compris que ce n'était pas un concept qui était nouveau, mais la question qui se pose, Michael Weber, c'est est-ce qu'il faut accélérer aujourd'hui le réensauvagement de la planète ?
Je crois qu'en tout cas, il faut accélérer les mesures de protection des espaces et l'interconnexion des espaces. Oui, absolument. On voit bien que l'impact du dérèglement climatique, lui, s'est accéléré depuis 2-3 ans. Je crois que chacun a pu constater qu'il n'y avait plus de saison, qu'on était en déficit hydrique, sauf sur des périodes comme cette année. Mais il est fort à parier que ça va se répéter. Donc oui, il faut absolument trouver des moyens pour répondre à ce besoin qui est un besoin urgent. Et je trouve que ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est de dire que, encore une fois, ce qu'il faut montrer, c'est que l'homme, même s'il peut détruire, il peut aussi réparer. Et là, sur les espèces qui étaient des espèces menacées, sur les rapaces, moi je l'ai vu chez moi, je l'évoquais tout à l'heure sur le faucon pèlerin, le milan royal, même les cigognes, la cigogne blanche avait quasiment disparu, la cigogne noire est en train de revenir. Donc sur des espèces qui étaient identifiées comme étant menacées par des actions qui ont été mises en œuvre, mise en place de réserves naturelles, de parcs nationaux, de parcs naturels régionaux, etc., on a pu protéger ces espèces qui se portent plutôt mieux. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est sur les espèces communes, à mon sens, et en particulier sur les oiseaux communs, et qui sont ces espèces qui vivaient dans les espaces ouverts, agricoles, trop anthropisés sans doute, avec un certain nombre de produits. C'est là qu'il y a une action à mener qui est absolument urgente. Et puis, c'est sur, à mon avis, un autre élément. L'autre pan, c'est le pan forestier, puisque la forêt souffre énormément de ce dérèglement climatique et qu'on ne sait pas, encore aujourd'hui, je crois qu'il faut être assez modeste de ce point de vue-là, comment réagir pour être le plus efficace possible face à ce dérèglement climatique sur les espaces forestiers.
Alors, on parle beaucoup des rapaces concernant le réensauvagement. Évidemment, on a un spécialiste des rapaces autour de cette table. Clémentine Mutilo, vous intéressez aux effets du réensauvagement des grands herbivores. Est-ce que ce sont eux qu'on appelle les espèces clés de voûte et qui seraient donc prioritaires à réintroduire ?
Alors oui, effectivement, on les appelle aussi des espèces ingénieurs des écosystèmes parce qu'elles ont un fort effet sur leur habitat, sur leur environnement et de fait, par cascade, comme je vous expliquais, sur tout un tas d'espèces. Et donc moi, je m'intéresse particulièrement aux grands herbivores qui vont avoir un effet en piétinant, en mangeant, en consommant, etc., sur les autres espèces.
On peut donner des exemples ?
Oui, bah, par exemple, moi, j'étudie plus particulièrement l'effet des chevaux de Przewalski.
Pardon ?
Donc eux, ils ont des chevaux de Przewalski.
D'accord.
Donc c'est considéré comme le dernier cheval sauvage. Et en fait, lui, il a été introduit sur le Cosméjan, non pas pour parce qu'il était là avant, mais pour le sauver, en fait, pour qu'il retrouve ses comportements, etc., et qu'il puisse être réintroduit en Mongolie. Et de fait, on a pu comparer avec des chevaux domestiques et des ovins et comprendre un peu mieux l'effet des différents types d'herbivores et notamment le fait qu'ils soient sauvages, donc qu'ils aient des comportements plus naturels que des troupeaux menés par l'homme. Et donc ça va apporter quelques éléments de réponse pour justement choisir au mieux et pouvoir, selon le contexte, réintroduire ou pas, ou continuer l'élevage domestique.
Alain Révérol, on en vient à cette tribune dont vous êtes à l'origine, qui a été publiée à la fin du mois dernier dans Le Monde. Réintroduction d'espèces animales, il est temps de mettre les parties prenantes autour de la table. C'est le titre de cette tribune. Qui on met autour de la table ? Parce que vous dénoncez un loto de la biodiversité.
Oui, mais la question du loto de la biodiversité, c'est un peu on considérait que c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire de se considérer comme les sauveurs au travers d'un jeu de hasard ou d'une manipulation assez simpliste. Et en fait, la difficulté. La difficulté, elle est d'être pertinent. Tout à l'heure, M. Weber parlait des oiseaux en voie de disparition et le fait, par exemple, de relâcher des espèces emblématiques, ça cache souvent le gros enjeu qui est que les batraciens ils passent inaperçus, les insectes disparaissent beaucoup plus fortement et ils passent inaperçus. Et on donne l'illusion un petit peu de réparer. Et en fait, on ne répare rien. Et là où ça devient très très gênant, c'est à partir du moment où on affiche une réparation qui en fait n'est pas nécessaire, elle se fait spontanément. Et donc l'idée de mettre des gens autour de la table, c'est surtout l'idée de discuter de la pertinence d'une action comme ça en amont. À l'heure actuelle, par exemple, il y a pour ces projets-là un avis généralement qui est donné par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, mais il arrive très tard et ça n'est qu'un avis. Mmh. Et je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de faux-semblants, quoi, d'actions qui sont, ou alors il faut les nommer pour ce qu'elles sont, de la communication, mais qui ne sont pas pertinentes. L'histoire du balbuzard pêcheur, c'est une espèce parmi les plus cosmopolites qui est en expansion en France et en Europe et que l'on veut réintroduire. Et le prétexte, on a du mal à le saisir. Il y a un guide pour conditionner ces réintroductions de l'UICN, qui est plein de bon sens. En fait, si on suit ces recommandations, on peut envisager des actions comme ça, mais qui soient pertinentes. Et c'est vraiment la pertinence des actions qui est peu abordée, quoi. Mmh.
En tout cas, votre message a été envoyé. Michael Weber, vous nous dites qu'il faut accélérer le réensauvagement. Mais à quoi ça sert d'accélérer ce réensauvagement si les objectifs climatiques ne sont pas tenus, si la planète continue de se réchauffer, parce que les espèces qu'on réintroduit, elles vont mourir, c'est une solution à court terme?
En tout cas, les espèces, elles vont s'adapter certaines, et puis parfois, effectivement, de façon naturelle, migrer. Le parc que je présidais avait une mission avec le parc de Berezinski en Biélorussie. Et par exemple, la première menthe religieuse présente dans ce parc-là, liée au réchauffement climatique, a été constatée là-bas. Et à l'inverse, quand on parlait, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, de la réintroduction du grand tétras dans les Vosges, oui, il y a un sujet. Est-ce que l'espace peut encore aujourd'hui, au regard du réchauffement climatique, de la changement de morphologie de la forêt, accueillir le grand tétras? Donc, je crois qu'il ne faut pas être aujourd'hui, il faut effectivement, si on s'adresse à nos concitoyens, il faut d'abord se dire que chacun est acteur de cette reconquête de biodiversité, peut l'être par la connaissance, par l'intérêt qu'il y porte, sans vouloir aller voir ces espèces de près, parce que c'est un autre problème, en tout cas de la pression qu'il peut y avoir, y compris touristique. Donc tout ça, ces sujets-là sont sur le tapis. Moi, je reste plutôt positif, parce que je pense que c'est l'action que l'on essaie de mener les uns et les autres, c'est d'être positif. Le dérèglement climatique est là, mais parallèlement, on doit mener une action aussi sur la biodiversité, parce que sinon, c'est un effondrement accéléré, déjà que là, oui, il est quand même déjà bien lancé, accéléré de la nature, et dont nous pâtirons. Il faut que chacun ait conscience que c'est finalement nous-mêmes qui sommes concernés.
Vous ne craignez pas que ça tourne au greenwashing, et que ce soit un petit peu comme par exemple les critiques qu'on fait à l'égard de la compensation carbone, on plante des arbres pour compenser des projets défavorables à l'environnement, là on réensauvage parce qu'on détruit la planète.
La question qui est posée, je ne dis pas que je la partage, mais qui est posée sur l'auto du patrimoine, ouais, en tout cas c'est du patrimoine naturel on pourrait dire, mais sur l'auto de la biodiversité, la question elle-même elle est juste. C'est vrai que ça apporte des moyens derrière, mais il y a une autre mesure qui est celle d'éviter, réduire, compenser, justement pour éviter les impacts quand il y a des investissements qui sont faits. Malheureusement, on évite très rarement, on réduit très peu et on compense toujours. Donc si on arrive pas à changer le prisme et à dire il faut éviter avant de vouloir compenser, oui, ça sera du greenwashing.
Bon, on va retenir l'aspect positif et optimiste de votre discours, et je vais citer pour conclure le biologiste Gilbert Cochet qui disait: réensauvager, ça veut dire accepter de ne plus exploiter certains endroits, laisser un peu de place, comme disait Alain Réverol il y a quelques instants dans cette émission. Merci beaucoup à vous trois, Michael Weber, sénateur de la Moselle, président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, Alain Réverol, donc naturaliste généraliste, membre de l'association La Salle se Pareille dans l'Hérault, spécialiste des rapaces, et Clémentine Mutilo, qui était également avec nous pour ce débat du jour, doctorante à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à Avignon Université. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, à Arthur Bon qui était à la réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. L'info revient dans 30 secondes, ce sera RFI Soir.